excellente matinée à tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association comme chaque jeudi matin. Le Secours Populaire du Nord a été contraint de reporter son salon Solidart qui jusqu'à présent lui permettait d'obtenir pas mal de dons. Malgré tout, l'association a décidé d'utiliser Internet pour proposer une version numérique de ce salon artistique et solidaire. Rencontre avec Florian Neveu, attaché de direction au Secours Populaire du Nord, qui répond aux questions de Manon Serene de RPL.
Conjuguer art et solidarité, c'est toute l'idée de Solidar. Ce projet solidaire, rattaché au Secours Populaire, organise lors de salons dans plusieurs villes de France des ventes d'œuvres d'art réalisées par des artistes régionaux. Une manière originale de concilier l'art et la solidarité, puisque chacune des ventes promet un don au Secours Populaire. Lors de ce salon, qui a lieu depuis maintenant 6 ans à Lille, un grand nombre d'artistes exposent et vendent leurs œuvres au profit de la campagne Vacances du Secours Populaire du Nord. Cette année, au vu de la situation sanitaire, le salon a été contraint d'un report, remplacé par un format inédit d'offres virtuelles. La moitié de chaque vente est reversée à la campagne Urgence Coronavirus, mise en place par le Secours Populaire en réaction à la situation actuelle. Le 11 mai 2020, Florian Neveu, attaché de direction au Secours Populaire du Nord, revient sur cette période de trouble pour le Secours Populaire et nous explique le projet Solidar.
On a mis en place l'opération Solidar, qui est un salon solidaire d'art contemporain qui existe depuis 5 ans à Lille. La 6e édition du salon devait se tenir au mois de juin et réunir plus d'une centaine d'artistes de la région pour soutenir la campagne Vacances de l'association. Voilà, dans le contexte actuel de l'épidémie, malheureusement, on a dû reporter le salon. On espère pouvoir le tenir à l'automne. Et on s'est adapté en proposant une version numérique de l'opération pour récolter des fonds pour la campagne Urgence Coronavirus du Secours Populaire. L'idée, c'était de maintenir le contact avec les artistes et avec aussi les amateurs d'art, les personnes qui sont fidèles à l'opération, leur dire que bah on faisait tout pour déjà reporter l'opération et essayer d'être recréer ce lien malgré le confinement. Donc Solidar Urgence Coronavirus, on a une trentaine d'artistes qui proposent une ou deux œuvres à la vente. Chacun a réalisé une petite vidéo pour présenter son travail. Et on a plusieurs styles proposés, du street art avec Jeff Aerosol, Freak the Fab, Speedy Graffito, de la sculpture avec Jean-Christophe Torres, Franck Vial, de la peinture, de la photo avec Samuel Baba, Minwide, etc. Donc voilà, c'est vraiment tous les artistes de la région qui se mobilisent pour l'association.
Urgence Coronavirus, une campagne qui appelle à la solidarité pour porter l'action du Secours Populaire du Nord, très perturbée en cette période de crise sanitaire.
Savoir que le Secours Populaire du Nord, c'est la plus grande fédération de France. Elle aide près de 300 000 personnes chaque année, c'est-à-dire pas loin de 10% de la population du département. Et elle est répartie sur tout le territoire avec 70 comités locaux. Le Secours Populaire a maintenu ses actions de solidarité pendant la pandémie et a dû s'adapter également avec des masques, des gants, des visières, des livraisons à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas du tout se déplacer. Ça peut être aussi financement de colis alimentaires d'urgence. 50 euros, c'est un colis alimentaire d'urgence pour une personne pour une semaine. Et ça peut être aussi tout simplement de l'essence pour faire les livraisons. Et ça, c'est un coût. Donc les besoins ont augmenté. Et en même temps, les ressources sont faiblies puisque beaucoup d'opérations comme les braderies, les lotos, toutes ces opérations qu'on organise chaque jour, tous les comités locaux, ont été annulées. Donc, on a eu une perte de ressources. Donc, c'est vraiment tout d'un soutien financier qui nous aide à maintenir notre activité dans cette période complexe.
Pour soutenir l'action constante du Secours populaire et pour faire face à la situation critique économique, l'opération, prolongée jusqu'au 17 mai, a déjà permis au Secours populaire du Nord de récolter près de 30 000 euros. Cette vente virtuelle est accessible à tous sur le site solidar.fr et propose un large choix artistique. Chacun peut alors trouver une œuvre à son goût et la réserver pour la récupérer dans le respect des mesures sanitaires, apportant ainsi son soutien à la campagne Urgence Coronavirus. Car même en cette période, art et solidarité semblent toujours corroborés.
L'art a toujours été un vecteur aussi de solidarité, donc il fallait le tenter, et je pense qu'on a bien fait, parce que ça a fonctionné. Hein. On n'a pas plus de dons que sur l'opération événementielle, physique, parce que c'est un plus gros dispositif, hein, tout simplement. Là, on a monté un peu l'opération dans l'urgence, il y a une trentaine d'artistes. Sur le salon à Lille, on est à plus de 120 artistes hein, sur 3 jours, donc c'est vraiment un salon installé. Là, c'était une opération expérimentale, on va dire, et qui nous a plutôt satisfait. Hein, mais bon, on aimerait bien pouvoir tenir le salon en vrai et puis pouvoir rencontrer des gens quand même, quoi.
Si l'option numérique est idéale pendant le confinement, l'association et les artistes espèrent pouvoir retrouver au plus vite les échanges entre acteurs qui se font toujours avec plaisir autour des œuvres d'art, chose que le virtuel ne permet pas.
Ça peut être complémentaire, ça peut être... Déjà, on verra la situation sanitaire dans le pays, hein, parce que c'est quand même l'incertitude. Je pense qu'il faut aussi garder... Après, il y a des... J'ai constaté que pour la sculpture, c'était un peu plus compliqué. Il y a des arts qui ont besoin d'être touchés, d'être il y a aussi la rencontre avec l'artiste. Enfin, nous, ce qu'on propose, c'est aussi de rencontrer des artistes, de se parler, le virtuel, c'est bien, mais pour moi, ça peut pas être l'unique voie, quoi.
Et à l'heure où le déconfinement s'amorce, le Secours populaire du Nord appelle à une grande solidarité pour lutter contre une hausse importante de la demande.
Au niveau du Secours populaire, on continue les activités. Il y en a une partie qui reste en télétravail aussi, parce qu'il y a aussi des actions menées en télétravail, hein, comme celle-ci. La difficulté, c'est que les besoins vont s'accroître. Hein. On s'attend vraiment qu'il y a déjà un boom de la demande de soutien et d'accompagnement, donc ça va être très dur. Nous, on a une perte de ressources que je vous dis qui est assez importante, qui a été estimée à 350 000 euros par mois, donc c'est vraiment compliqué. Donc nous, on a vraiment un enjeu à la fois d'essayer de répondre aux besoins qui vont être plus grands et de trouver de nouvelles sources de financement, et on appelle à l'aide en fait, hein, tout simplement.
Un appel à l'aide qui semble résonner d'une manière différente en cette période compliquée.
On a eu beaucoup d'appels à bénévoles, hein, ça c'est sûr, qu'il a fallu gérer, parce que c'est quand même pas simple de faire du bénévolat dans les conditions qui étaient celles de l'épidémie. Il a fallu, déjà il y a une partie des personnes les plus âgées qui ont dû rester à la maison pour se protéger. On a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Après, c'était aussi plus compliqué de répondre à toute cette demande. Mais non, il y a eu un grand élan de solidarité, c'est sûr.
Un bilan positif qui prouve que l'art et la solidarité fonctionnent. C'est ainsi que Florian Neveu, attaché de direction au Secours populaire, dresse, le 11 mai dernier, un premier bilan de ce solidaire lillois aux circonstances particulières. Si vous souhaitez participer à cette édition avant le 17 mai ou vous tenir informé de la date du prochain salon à l'automne, rendez-vous sur le site solidart.fr. Vous trouverez dans la rubrique Urgence Coronavirus les informations complémentaires pour participer à la vente solidaire. Un reportage réalisé par Manon Sorène pour RPL Radio. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, et une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Voilà pour ce premier reportage signé Manon Seren de RPL. Mélissa Mielé de Manquise FM à Isberg a interviewé récemment le directeur d'Emmaüs Saint-Omer et Calais, Laurent Charles. Les sites de Saint-Omer et Calais ont en effet pu rouvrir le mardi 12 mai dernier après une période de fermeture assez angoissante pour leurs bénévoles et compagnons.
En 1954, l'abbé Pierre crée Emmaüs. Aujourd'hui, Emmaüs France fédère 288 groupes et compte 27 000 personnes en France, des compagnons, bénévoles, salariés en insertion. Il existe différents types de structures au sein du mouvement pour trouver avec les personnes victimes de phénomènes d'exclusion des solutions qui leur permettent de redevenir acteurs de leur vie. Dans la région, il existe notamment plusieurs boutiques solidaires où tout le monde peut déposer des objets dont il n'a plus besoin, des vêtements, des meubles ou encore des livres par exemple. L'achat de chacun de ces objets contribue à soutenir les actions de l'association tout en favorisant l'insertion professionnelle grâce aux postes créés dans chaque magasin. Mais depuis le début de la crise sanitaire, ces boutiques étaient complètement à l'arrêt. Heureusement, les sites de Saint-Omer et Calais ont pu rouvrir le mardi 12 mai, comme plusieurs dans la région, pour le plus grand plaisir des bénévoles et compagnons. Nous avons échangé par téléphone le 12 mai dernier avec le directeur d'Emmaüs Saint-Omer et Calais, Laurent Charles. Il nous en dit plus sur l'impact qu'a eu cette crise sanitaire sur l'activité de l'association et sur la réouverture de ses sites. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne votre association tout le long de l'année ?
Alors une communauté Emmaüs, alors déjà on accueille 45 compagnons sur la communauté de Saint-Omer, donc 45 compagnons et compagnes, et 22 compagnons aussi sur les attaques près de Calais. Donc une communauté Emmaüs, c'est un lieu d'accueil, de vie, d'activité et de solidarité qui fonctionne essentiellement sans subvention et uniquement grâce à la récupération d'objets. Donc les communautés accueillent souvent des personnes de tout horizon. Elles permettent en tout cas aux compagnons qui sont hébergés de se refaire une santé, de retrouver, on va dire, des repères d'une vie sociale. Et ils sont en charge essentiellement, donc, du coup, de la récupération, de la réparation et de la revente d'objets divers, en fait. On va dire, une communauté Emmaüs aussi, c'est un tremplin d'insertion pour la communauté, essentiellement, et aussi ils ont la chance en tout cas d'être formés tout au long de l'année.
Donc je suppose que le confinement était très compliqué pour vous, vous étiez totalement à l'arrêt, c'est ça ?
Alors on a été à l'arrêt, oui, depuis le début du confinement, donc vous pensez bien que ça a été très très compliqué pour nous, parce que pas de vente, pas de recettes, et pour autant on a eu des charges qui tombaient, notamment des factures d'énergie, de chauffage, d'électricité, d'entretien, d'alimentation aussi pour les compagnons, et pour le coup ça a épuisé en tout cas toute notre trésorerie.
Donc heureusement vous avez pu réouvrir le 12 mai dès le début du déconfinement. Comment vous êtes organisé pour cette réouverture ? Comment ça s'est passé pour vous et vos équipes de bénévoles ?
Pour savoir, c'est le fruit de la vente, hein, qui fait vivre donc de la communauté. Avant l'ouverture, on s'était préparé, hein, en tout cas pour sécuriser les compagnons d'Emmaüs, les bénévoles et les salariés aussi, parce qu'on est une équipe de 13 salariés sur l'ensemble des deux communautés. C'était d'abord sécuriser aussi les clients. On a installé donc des parois de plexi, hein, au niveau des comptoirs de caisse et de vente, et on a mis en place des consignes de sécurité et de distance, en tout cas dans les salles de vente, dans le local de dépôt des réceptions des dons, et aussi des consignes de sécurité qui ont été aussi préconisées pour les ramassages à domicile.
Et donc vous avez déjà eu quelques visiteurs ?
On a eu des visiteurs, on a été surpris de l'affluence, mais on sait que on peut faire rentrer des clients au fur et à mesure, mais voilà, donc les clients, les acheteurs solidaires reviennent en nombre, tout à fait.
Des acheteurs solidaires qui avaient peut-être profité du confinement pour faire du tri chez eux et vous apporter leurs dons.
Tout à fait. Donc on a besoin de la générosité des gens et donc pour déposer des dons d'objets divers, en fait, on accepte donc des meubles, des vêtements, des jouets, des livres, de la vaisselle, de l'électro, etc. Voilà.
Et donc ensuite vous les vendez et cet argent
fait vivre la communauté. Donc c'est le fruit de la vente qui fait vivre la communauté en général. Ça permet d'accueillir des gens qui étaient auparavant à la rue. Hein. Ce sont souvent des personnes ou des familles qui frappent à la porte d'Emmaüs. Hein. Ce sont des personnes qui sont le plus souvent n'ont pas de toit, pas de ressources, parfois aussi sans papier, qui sont aussi très isolés et très très fragilisés en fait.
Depuis mi-mars, l'activité des boutiques Emmaüs était donc complètement à l'arrêt et l'association est en réel danger. Ce fut aussi un moment compliqué et long pour les bénévoles, compagnons, qui attendaient avec impatience la réouverture des boutiques, comme nous l'explique Laurent Charles, directeur d'Emmaüs Saint-Omer et Calais.
Comment ils ont vécu ce confinement ? Ça a été, on va dire, assez particulier. On a profité en tout cas de cette inactivité pour faire du rangement dans les magasins et les ateliers. Et puis, on a aussi profité de faire des travaux de réparation et d'entretien dans les bâtiments, en fait. Alors, il est vrai que pour eux, ça a été une privation de liberté. Hein, et puis, pour eux et puis pour nous, en général, on s'est rendu compte que l'espace-temps était quand même chamboulé.
Mais les équipes ne sont pas encore au complet. Tous les bénévoles n'ont pas encore pu revenir pour cette ouverture des boutiques Emmaüs solidaires de Saint-Omer et Calais. L'association a donc besoin de bénévoles au plus vite. Pour le moment, est-ce que tout le monde a pu revenir au sein de vos sites à Saint-Omer ou Calais ou pour l'instant, vous y allez tout doucement?
Oui, au niveau des bénévoles. Oui. Alors, au niveau des bénévoles, justement, la plupart ont plus de 75 ans, ils connaissent déjà des problèmes de santé. On va dire sur les 120 bénévoles sur les deux sites, hein, sur les deux communautés, 50% de l'effectif bénévole est manquant. Hein, car souvent ces gens-là ont des problèmes de santé en fait. Donc on lance un appel pour recruter de nouveaux bénévoles.
Voilà, des bénévoles qui peuvent venir à partir de maintenant vous aider. Et comment vous voyez l'avenir pour terminer pour vos sites à Saint-Omer et Calais et pour tous les sites Emmaüs en France et dans la région?
On espère que les gens vont revenir, tout simplement.
Pour devenir bénévole ou pour tout renseignement, rendez-vous sur les Facebook d'Emmaüs Saint-Omer et Les Attaques. Les magasins sont ouverts du mardi au samedi de 14h à 17h et les dépôts textiles sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. N'oubliez pas de vous munir de votre masque et respecter les règles de distanciation. Il y a aussi un service de ramassage gratuit de dons que vous pouvez joindre au 03 21 98 86 34. Et pour savoir où vous pouvez trouver une boutique solidaire Emmaüs près de chez vous, rendez-vous sur le site www.label-emmaüs.co où vous trouverez aussi une boutique en ligne. Cette interview téléphonique a été réalisée le 12 mai dernier par Mélissa Miellet pour Banquise FM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et sachez que Emmaüs fait toujours un appel aux dons au niveau national. Emmaüs est toujours donc dans une situation précaire, donc n'hésitez pas à faire un don si vous le pouvez. Appel aux dons lancé pour la première fois en 70 ans, hein, puisque évidemment la situation est assez critique hein, dans cette association et fort heureusement les magasins Emmaüs ont pu rouvrir, mais c'est vrai que l'épidémie de coronavirus a vraiment placé cette association dans une situation très délicate. On passe à un autre sujet à présent sur Radio Plus. Utiliser Internet et le virtuel pour créer une véritable communauté solidaire, c'est le pari de l'association Entourage, dont l'objectif est de maintenir le lien social pour lutter contre l'isolement. Thomas Jouret, responsable du déploiement Entourage à Lille, a répondu aux questions de Manon Serène de RPL.
Apaiser la précarité en limitant la trop grande solitude des personnes SDF, voici l'action de l'association Entourage. Pour aider les personnes dans la rue, elle propose en effet un maintien du lien social, notamment par l'intermédiaire d'une application. Se compilent sur celle-ci des actions solidaires disponibles à proximité grâce à une carte interactive. Présente partout en France, Entourage est arrivé à Lille il y a environ un an et s'épanouit depuis dans un monde et un réseau associatif riche, celui de la région lilloise qui constitue pour Entourage un allié de taille. Confinement oblige, l'activité, les besoins et les actions de l'association se voient bouleversés. Thomas Jouret, responsable du déploiement d'Entourage à Lille, nous partage le 11 mai dernier ses mots sur cette période compliquée. Avant toute chose, il rappelle l'identité d'Entourage.
Donc en fait, l'objectif d'Entourage, c'est de faciliter le lien autour des personnes en grande précarité, personnes sans abri, personnes SDF. Donc en facilitant du coup l'entrée en lien des personnes qui ont un logement, les voisins du quartier. Et au travers de trois étapes principales qui sont la sensibilisation pour mieux faire comprendre le monde de la rue, et ensuite autour d'un réseau social solidaire, donc l'application Entourage, de faciliter des actions toutes simples comme donner une paire de chaussures, un manteau, un duvet, un petit coup de main, mettre à disposition une machine à laver par exemple. Et enfin, ce sont des événements de convivialité pour faciliter la rencontre. Et donc voilà, ces trois étapes facilitent les liens qui peuvent ensuite se développer selon ce que souhaitent les personnes en précarité et les voisins qui les entourent.
Une solidarité possible grâce à une communauté qui se crée notamment par le biais du digital.
On cherche surtout à créer un réseau, une communauté. Et donc c'est autant les personnes avec abri que sans abri qui finalement bénéficient de ce que propose Entourage, parce que chacun noue des nouveaux liens qui le font grandir, qui lui permettent d'agir. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles avec un smartphone. Maintenant voilà, on essaye vraiment de rejoindre les gens là où ils sont. Et donc en dehors du confinement, on est beaucoup présent dans les différentes associations, dans les accueils de jour, dans la rue, pour faire connaître Entourage aux personnes en précarité. On diffuse beaucoup d'informations sur d'autres réseaux que le nôtre, que ce soit sur Facebook, sur Nextdoor, sur Instagram. Et puis on a même des petites invitations papier, voilà, qu'on va distribuer au fur et à mesure de nos rencontres. On s'appuie aussi sur un réseau de bénévoles qu'on appelle des ambassadeurs, pour qu'eux parlent autour d'eux et ils puissent permettre du coup au plus grand nombre de participer. Voilà, maintenant c'est vrai qu'on pense vraiment que le digital et le numérique sont une vraie chance pour lutter contre l'exclusion et donc on propose effectivement un outil qui s'appuie sur ces technologies.
Un outil qui a su grandir et s'adapter pendant le confinement.
Le confinement, il a renforcé en fait notre présence numérique, digitale. On s'appuyait déjà sur une application pour smartphone et ordinateur. Donc on avait déjà la maîtrise de ces outils. Maintenant, l'objectif d'Entourage, c'est de permettre des rencontres réelles, de permettre des liens sur lesquels chacun va pouvoir compter dans sa vie. Et du coup, avant, on organisait en fait des événements de convivialité dans des cafés ou dans des associations, dans des foyers d'hébergement. Et donc ça, le temps du confinement, ce n'est plus possible. On a organisé des événements en ligne. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire des jeux, de discuter à plusieurs, en visio, etc. Donc on a adapté nos événements de convivialité. On a aussi cherché beaucoup à... C'est toujours ce qu'on fait, de transmettre les bonnes informations aux gens, à la fois aux personnes en précarité ou aux gens qui veulent aider. Donc ça, on a mis l'accent là-dessus, parce que c'est vrai que les repères ont beaucoup changé. Donc on a fait un petit peu on a répertorié toutes les informations, notamment d'ouverture des structures, etc. Une nouvelle chose qu'on a développée spécialement pendant le confinement, c'est ce qu'on a appelé l'opération Les Bonnes Ondes. Donc c'est créer en fait des petites équipes de 3, 4, 5 personnes, souvent autour d'une personne en précarité, d'une personne qui souffre d'isolement, pour organiser des appels téléphoniques. Il y a 70% des personnes SDF qui ont un smartphone, mais c'est pas le cas de toutes non plus. Et c'est vrai qu'aussi pendant le confinement, l'accès aux données était encore compliqué. Donc voilà, on a organisé des chaînes d'appels téléphoniques pour prendre des nouvelles des uns des autres. Et comme toujours chez Entourage, en fait, c'est autant les personnes qui ont un logement que les personnes sans logement qui étaient contentes et qui ont pu bénéficier finalement de cette opération.
Entretenir ou construire du lien social auprès des personnes SDF, voici la principale action de l'association Entourage. Cette communauté solidaire grandit chaque jour grâce au virtuel qui, pendant le confinement, a permis d'assurer une certaine continuité. À l'heure du déconfinement, Entourage espère que cette période a permis à de nouveaux publics de franchir la frontière du numérique afin d'agrandir encore son réseau et vivre un redémarrage plus fort grâce au soutien d'une communauté renforcée.
On a eu effectivement une forte augmentation du nombre d'utilisateurs de l'application. On a dépassé la barre des 100 000 utilisateurs au moment du confinement et on est proche des 110 000 aujourd'hui. On a vu que effectivement l'opération les bonnes ondes rejoignait les attentes autant des personnes en précarité que des personnes confinées chez eux, puisque finalement voilà, tout le monde était en situation d'isolement pendant ce confinement. Effectivement, les personnes en précarité, pour certaines, dans des conditions encore plus difficiles que d'habitude. Et donc, voilà, on a vu des mouvements de solidarité se développer. Et donc, voilà, on a l'espoir que ça continue ensuite et que Entourage puisse être un des outils qui permettent cette solidarité de se maintenir et de se développer encore.
Une solidarité plus grande pour permettre à Entourage une reprise progressive sur le terrain. L'association prévoit de commencer par retrouver ses habitués d'ici l'été, période particulièrement difficile pour les personnes en situation de précarité. Alors Entourage fait confiance à la solidarité, souvent renforcée pendant le confinement.
Avec le coronavirus, forcément il a été mis en lumière les besoins de certaines personnes, en particulier des opérations emblématiques comme la confection de masques. Le fait d'agir ensuite permis d'ouvrir les yeux sur d'autres besoins et les gens ont eu envie de s'engager. C'est vrai qu'aussi certains ont eu plus de temps et donc des envies, des projets qu'ils pouvaient avoir depuis longtemps, ils ont pu les mener à bien pendant ce confinement.
Prendre le temps de s'engager pendant le confinement, donc, et une fois le pas de l'engagement pris, la démarche est facile et accessible avec l'application Entourage.
L'application est ouverte à tout le monde, elle est gratuite, sans publicité, et donc voilà, il suffit d'aller télécharger l'application, qui est disponible facilement sur tout type de téléphone. On peut agir dès aujourd'hui. Si on veut être bénéficiaire, on va sur l'application et puis on peut créer une action, on demande quelque chose. Et si on veut aider, on peut déjà voir les demandes qui existent en ligne et voir si éventuellement on peut pas répondre à certaines des demandes. Ou éventuellement on peut mettre à disposition quelque chose. Une façon aussi très utile d'aider, c'est de rejoindre les événements de convivialité, d'y participer. Et du coup de permettre à d'autres de créer de nouveaux liens.
Et s'il est parfois difficile de savoir comment aider les personnes en situation de précarité, Thomas Jouret nous le rappelle le 11 mai dernier, créer un lien social est une première étape, mais surtout l'une des plus importantes.
Il y a beaucoup d'études qui mettent vraiment en avant qu'un des besoins essentiels des personnes en précarité, c'est le lien social. Et donc voilà, tous ceux qui ne savent pas forcément comment se rendre utile, eh bien, tout simplement en allant discuter avec les personnes qui peuvent croiser. Si c'est pas évident, en rejoignant Entourage pour avoir quelques conseils, quelques recommandations et vivre quelques premières expériences positives, il faut vraiment pas hésiter à le faire parce que c'est vraiment très important pour les personnes en situation d'exclusion.
Si vous souhaitez rejoindre la communauté, téléchargez l'application Entourage sur votre smartphone et retrouvez toutes les informations nécessaires sur les réseaux sociaux de l'association via la page Facebook Entourage Lille. Un reportage réalisé par Manon Soren pour RPL Radio.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Oui, effectivement, un sujet qui demeure préoccupant, d'autant plus que la précarité s'installe de plus en plus chez les jeunes entre 18 et 25 ans, puisqu'avant 25 ans, évidemment, ils n'ont pas le droit au RSA et s'ils sont en situation de précarité, leur situation peut être vite dramatique en cas d'absence de soutien familial, par exemple.
Radio Plus sur Internet au www.radioplus.fr et par téléphone au 09 52 22 22 07. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Voici Sting avec Just One Lifetime sur Radio Plus et en compagnie de Shaggy également.
The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings.
The planets turn in retrograde. My moon seems to have fled. The world is spinning upside down and landed on its head. Just one lifetime, and there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
So there is only one.
Just one life to live.
One life to live, yeah.
Assuming that we'll make it, with no choice but to take it. I'm with you, Laura said. We'll dress for heavy weather. Whatever's on the road ahead, we're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags and filled her up on lead. Just one lifetime.
One lifetime.
And there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
And there is only one.
Just one life to live.
One life to live, yeah.
Assuming that we'll make it, with no choice but to take it.
Want me to take a page out of the book of life? Let go negativity and do what's right. We no longer need to fuss or fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend. Replace the word enemy with friends. Leaders of the world, these rules can't bend. This is the message we are sent to them.
The time had come, a reckoning. We all knew it was coming. We headed north on empty roads, the engine gently humming. The walrus smoked a cigarette. He claimed it was his last. No signs of life, no gas, no food, and all the empty times we passed. So all we have is me and you. It has to be enough. I've got your back and you've got mine. But if the going it gets rough, just one lifetime.
One life to live long.
And there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
And there is only one.
Just one life to live.
One life to live now.
Assuming that we'll make it,
yeah.
With no choice but to take it. The time has come, the war has said, to talk of many things. I've ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings.
Et tout de suite à 9h35 dans Fréquence Association, on passe à l'actualité associative. Alors vous le savez, certains maires viennent d'être élus et les conseils municipaux installés, mais ces nouveaux élus peuvent-ils revenir sur les aides accordées aux associations par la précédente majorité municipale? Voici plusieurs cas de figure intéressants comme autant d'éléments de réponse. En 2016, une commune décide de retirer à un comité des fêtes ses subventions au titre d'année antérieure. Des subventions accordées il y a plus de 4 mois. Or, le tribunal administratif a censuré cette décision car l'annulation était postérieure justement à 4 mois. Autre cas de figure, une commune octroie en avril 2004 une subvention de 1800 euros à une association sportive en vue de l'acquisition d'un équipement. Quelques mois plus tard, en septembre, la commune adresse un courrier à la présidente de l'association en question, lui demandant de partager cet équipement avec une autre association sportive de la commune. Dans le cas contraire, la commune menace de retirer la subvention à l'association. L'association ne répond pas à la demande car selon elle, cette condition ne figurait pas dans la notification de subvention. En janvier 2005, la commune, par délibération, décide d'annuler le versement de la subvention. Conséquence, l'association saisit le tribunal administratif qui annule à son tour la décision de la commune. Mais ce n'est pas fini, la commune fait tout de même appel et résultat, la cour d'appel finit par donner raison à l'association sportive. Alors par contre, si cette subvention avait été attribuée il y a moins de 4 mois, une nouvelle municipalité aurait pu revenir sur cette décision. Autre élément, si une association qui a bénéficié de subventions prend une position politique sur un sujet de société, elle ne peut pas pour autant se voir retirer sa subvention tant que cette prise de position n'est pas de nature à ôter à l'activité subventionnée son caractère d'intérêt public local. C'est une décision de la Cour d'appel de Nantes. Alors, dans quel cas, me direz-vous, une commune peut-elle revenir sur le versement d'une subvention ? Eh bien, seulement si trois conditions sont réunies. Première condition, lorsque l'association a commis une faute au regard de la convention d'aide signée. Seconde condition, lorsque l'association a pu se défendre avant la décision. Et troisième et dernière condition, lorsque l'action indemnitaire n'est pas prescrite. En revanche, si une association fait évoluer ses activités dans un sens qui ne convient pas à la mairie, tant que les conventions de subventionnement ne s'en trouvent pas violées, il n'y a pas de faute et donc pas de possibilité de supprimer la subvention. Enfin, attention, rien n'interdit à une nouvelle municipalité de ne pas reconduire une aide en 2020 si celle-ci a été accordée l'an dernier. En effet, l'inscription au budget 2020 de la subvention ne suffit pas à la rendre exigible. Cela nécessite une délibération du nouveau conseil municipal. Autre élément à prendre en considération, qui est bien connu des associations, une municipalité peut tout à fait mettre fin à une convention d'occupation de locaux du domaine public, sauf si l'association obtient la requalification de la convention en bail commercial ou professionnel. Alors vous le comprenez, tout est sujet à interprétation et bien souvent, les batailles juridiques demeurent âpres entre les municipalités et les associations. Allez, tout de suite, on retrouve Gauvin Serre avant de retrouver la suite de l'actualité associative sur Radio Plus avec En Quarantaine.
Partout les chaises sont empilées, partout les rideaux sont tirés, les salles de classe ressemblent toutes à ce qu'elles seront au mois d'août. Les paquets de pâtes italiennes ont déserté tous les rayons, comme s'il fallait qu'on se souvienne que la peur réveille les couillons. Excepté la bêtise humaine, nous voilà tous en quarantaine, en quarantaine. Certains allument la chaîne Ifi, savourent un album en entier. Certaines ressortent le manuscrit qu'elles n'ont jamais pu achever. Les confinés relisent Prévert, les confinés se serrent la main. On a toujours besoin d'une guerre pour démasquer les êtres humains. Comme le cargo du capitaine, nous voilà tous en quarantaine, en quarantaine, en quarantaine. Les impatients trinquent à distance, par vidéo interposée. Les solitaires matent à outrance n'importe quelle dope télévisée. S'il y a des concerts aux fenêtres et des coups de fil pour nos grands-mères, les coups bords du gouffre peuvent naître les plus beaux élans solidaires. Moi
qui viens de passer la trentaine. Je fais un saut en quarantaine. Les marchés s'effondrent un peu plus et les costards retroussent les manches. Il fallait au moins ce virus pour qu'il se soucie des blouses blanches. Comme la bataille est immédiate et malgré le manque de moyens, c'est le stéthoscope en cravate que les docteurs sauvent nos anciens. Il serait temps qu'on s'en souvienne, quand prendra fin la quarantaine. La quarantaine. La quarantaine.
Le talentueux Gauvin Serre sur Radio Plus avec En quarantaine et ses paroles bien ciselées. 9h passées de 43 minutes et on poursuit avec l'actualité associative. Une nouvelle enquête lancée par le mouvement associatif et le réseau national des maisons des associations. Il s'agit de prendre le pouls des associations afin d'évaluer leur situation et leurs besoins en cette période de déconfinement progressif. Vous trouverez le lien internet notamment sur le site Association Mode d'Emploi. Un livre à présent, Souffrance en milieu engagé, signé de la journaliste Pascale Dominique Rousseau, qui démontre que travailler dans une association n'est pas forcément une garantie de bonheur au travail. Un livre qui ne fait pas que dénoncer puisqu'il propose également des solutions. La journaliste a ainsi enquêté auprès de plusieurs grandes structures associatives comme Emmaüs, France Terre d'Asile et de Mutuelle, des structures de l'économie sociale et solidaire. Elle a également recueilli plusieurs témoignages de salariés en poste ou non, de syndicalistes et de dirigeants. Également, elle espère avec ce livre faire prendre conscience aux associations employeuses de la nécessité de prendre en compte les risques psychosociaux de leurs salariés. Le livre existe en version papier et numérique. Il est publié aux éditions du Faubourg. Puis un comité interministériel a annoncé plusieurs mesures de soutien spécifiques aux clubs et associations sportives employeuses dès le premier salarié, un secteur dont les pertes sont estimées à près de 20 milliards d'euros. Parmi les mesures annoncées, le droit à l'activité partielle sera prolongé jusqu'à fin septembre 2020, dans les mêmes conditions qu'au mois d'avril et mai, et restera ouvert par la suite dans des conditions aménagées. Les petites structures les plus touchées seront totalement exonérées de charges sociales de mars à juin 2020. Et enfin, l'accès au fonds de solidarité est élargi à partir du mois de juin jusqu'à la fin de l'année aux structures comptant jusqu'à 20 salariés et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Par ailleurs, le plafond de subvention sera porté de 5 000 à 10 000 euros dès le mois de juin. Sachez enfin que sur ce même sujet, le ministère des Sports s'est engagé à sensibiliser les collectivités territoriales à réduire les loyers redevances d'occupation du domaine public pour les équipements sportifs au titre d'une jouissance réduite et de revoir les plafonds de soutien financier autorisés aux clubs par les collectivités locales. On va retrouver encore un peu d'actualité associative d'ici quelques minutes. Ce sera juste après Madness et Our House.
Sighing in her sleep. got a leg to keep you cutting around. A crowd, there's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Simply waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Madness sur Radio Plus avec How House. Et allez, on vous donne encore quelques infos associatives et une première info importante à destination des associations. L'épidémie de coronavirus est considérée comme un cas de force majeure par l'État et les collectivités locales, ça vous vous en doutez. Par conséquent, il n'y aura pas de pénalité en cas de retard dans la mise en œuvre de marchés publics qui n'auraient pas été honorés par une association dans les délais impartis. Par ailleurs, l'administration ne peut tenir rigueur à une association de ne pas avoir réalisé en toute partie un projet pour lequel elle a été subventionnée. L'autorité administrative pourra entre autres inciter l'association à décaler le projet. Enfin, dernière info, rappelons qu'un fonds de solidarité existe depuis l'ordonnance du 25 mars dernier. Il a été institué pour aider financièrement les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique ayant été particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de coronavirus. L'aide dure 3 mois et peut être prolongée par décret pour une durée maximale de 3 mois supplémentaires. Pour en bénéficier, il faut que votre structure associative ait subi une fermeture administrative ou que son chiffre d'affaires ait baissé d'au moins 50% par rapport au même mois en 2019. L'aide, accessible par simple déclaration depuis le 1er avril sur le site des impôts, peut aller jusqu'à 1500 euros. Par ailleurs, depuis le 15 avril, une aide complémentaire peut atteindre 5000 euros. En bénéficiant de ces aides, les associations concernées ne peuvent en outre encourir de pénalités financières en raison du défaut de paiement de loyer ou de charges locatives liées à leurs locaux professionnels dont l'échéance intervient entre le 12 mars et un délai de 2 mois après la date de fin de l'état d'urgence sanitaire. Voilà concernant l'actualité associative et également concernant votre émission Fréquence Association. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouvera sans faute la semaine prochaine dans Fréquence Association avec de nouveaux sujets. Dans quelques instants, c'est Microscope sur Radio Plus. Très bonne matinée à toutes et à tous.
C'est pas très loin de la ville, c'est pas plus grand.